Le capital sans les notes. Livre premier, première section, chapitre grand 3, grand 3, petit c. La monnaie universelle. À sa sortie de la sphère intérieure de la circulation, l'argent dépouille les formes locales qu'il y avait revêtues, formes de numéraire, de monnaie d'appoint, d'étalons des prix, de signes de valeur, pour retourner à sa forme primitive de barre ou lingot. C'est dans le commerce entre nations que la valeur des marchandises se réalise universellement. C'est là aussi que leur figure valeur leur fait vis-à-vis sous l'aspect de monnaie universelle. Monnaie du monde, ouvrez la parenthèse, money of the world, fermez la parenthèse, comme l'appelle James Stewart. Monnaie de la grande république commerçante, comme disait après lui Adam Smith. C'est sur le marché du monde, et là seulement, que la monnaie fonctionne dans toute la force du terme, comme la marchandise dont la forme naturelle est en même temps l'incarnation sociale du travail humain en général. Sa manière d'être y devient adéquate à son idée. Dans l'enceinte nationale de la circulation, ce n'est qu'une seule marchandise qui peut servir de mesure de valeur et par suite de monnaie. Sur le marché du monde règne une double mesure de valeur, l'or et l'argent. La monnaie universelle remplit les trois fonctions de moyen de paiement, de moyen d'achat et de matière sociale de la richesse en général. Ouvrez la parenthèse. Universal wealth. Fermez la parenthèse. Quand il s'agit de solder les balances internationales, la première fonction prédomine. De là, le mot d'ordre du système mercantile, balance de commerce. L'or et l'argent servent essentiellement de moyen d'achat international toutes les fois que l'équilibre ordinaire dans l'échange des matières entre diverses nations se dérange. Enfin, ils fonctionnent comme forme absolue de la richesse quand il ne s'agit plus ni d'achat ni de paiement, mais d'un transfert de richesse d'un pays à un autre, et que ce transfert sous forme de marchandises est empêché, soit par les éventualités du marché, soit par le but même qu'on veut atteindre. Chaque pays a besoin d'un fonds de réserve pour son commerce étranger, aussi bien que pour sa circulation intérieure. Les fonctions de ces réserves se rattachent donc en partie à la fonction de la monnaie comme moyen de circulation et de paiement à l'intérieur, et en partie à sa fonction de monnaie universelle. Dans cette dernière fonction, la monnaie matérielle, c'est-à-dire l'or et l'argent, est toujours exigée. C'est pourquoi James Stewart, pour distinguer l'or et l'argent de leurs remplaçants purement locaux, les désigne expressément sous le nom de « Money of the World ». Le fleuve aux vagues d'argent et d'or possède un double courant. D'un côté, il se répand à partir de sa source sur tout le marché du monde où les différentes enceintes nationales le détournent en proportions diverses, pour qu'ils pénètrent leurs canaux de circulation intérieure, remplacent leurs monnaies usées, fournissent la matière des articles de luxe et enfin se pétrifient sous forme de trésor. Cette première direction lui est imprimée par les pays dont les marchandises s'échangent directement avec l'or et l'argent aux sources de leur production. Les métaux précieux courent de côté et d'autre sans fin ni trêve, entre les sphères de circulation des différents pays, et ce mouvement suit les oscillations incessantes du cours du change. Les pays dans lesquels la production a atteint un haut degré de développement restreignent au minimum exigé par leurs fonctions spécifiques les trésors entassés dans les réserves de banques. À part certaines exceptions, le débordement de ces réservoirs par trop au-dessus de leur niveau moyen est un signe de stagnation dans la circulation des marchandises ou d'une interruption dans le cours de leur métamorphose.